Alors continuons sur la différence entre le plaisir et la satisfaction. Pour moi, il y en a une. Hein. Je pense que c'est deux choses différentes. Le plaisir, il est lié à l'organe physique, orgasme oral, orgasme anal, orgasme génital, ou alors il est lié à la pulsion, même si elle n'est pas clairement libidinale, comme par exemple la pulsion d'emprise. Il y a un plaisir à avoir de l'emprise sur l'autre et à le posséder comme un objet. Ça, c'est du plaisir, ce n'est pas de la satisfaction. Et on pourrait même dire que ce plaisir, de toute façon, il est probablement inscrit en nous-mêmes, puisqu'il a un lieu délimité dans le cerveau, comme l'ont montré les expériences avec les rats en 1954. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je vais vous lire quelque chose là-dessus. Par exemple, en 1954, il y a un type qui s'appelle James Holtz, qui a observé ce qu'il appelait un comportement d'autostimulation chez le rat. Une électrode qui avait été implantée dans telle région du cerveau, pour un courant donné et dans certaines circonstances, l'animal reproduit ce courant en actionnant une pédale, cela à raison de 50 à 100 coups par minute pendant des heures, en dépit de la faim, souvent jusqu'à l'épuisement, et l'accroissement de ce courant entraîne dans certaines limites une accélération du rythme atteignant parfois la fréquence de 2 à 3 réponses par seconde. Donc c'est pour dire qu'on peut être addict au plaisir et au point d'en oublier même de vivre, quoi. Hein. Donc, le plaisir, il est lié en partie, en bonne partie, à l'organe physique. D'une certaine manière, en tout cas, il est descriptible, il est mesurable, il est en rapport avec des actions observables. Le plaisir est sous la main, c'est le cas de le dire. Et il amène la décharge de l'attention. Le plaisir, il est lié à l'augmentation de l'attention due à l'excitation, c'est-à-dire quand la tension monte comme ça, il y a quand même quelque chose, on sent quelque chose de plus vivant. Hein. Le désir du plaisir, le plaisir pulsionnel, la tension pulsionnelle, dans un premier temps, est au service de la vitalité, de l'éros. Alors, peut-être vous savez que Sœur Emmanuel, dans ses mémoires, a écrit qu'elle s'était masturbée activement pendant toute sa vie et que c'était un truc important pour elle. Et alors elle écrit, je cite, « Je me sens...
Très bonne source.
J'ai mes sources.
On est dans les locaux par voiture.
Je me sentais libre, libre, corps, cœur et volonté. Donc, c'est vrai qu'il y a un sentiment de liberté que vous connaissez, par exemple, à la phase phallique, au moment où l'enfant découvre qu'il a la possibilité d'avoir son plaisir par lui-même, il découvre la masturbation. Et à cette phase, c'est pas pour rien qu'on l'a fait la phase phallique, c'est qu'à ce moment-là, il a le sentiment qu'il est enfin, qu'il a le pouvoir, quoi. Il dispose enfin, à volonté, de sa source de plaisir, contrairement à la zone orale ou à la zone anale. Donc il y a à cette phase-là une espèce d'ivresse, de puissance, due au fait qu'on a le plaisir sous la main et accessible. Alors que la satisfaction, c'est une autre chose. La satisfaction, ça suppose en particulier le fait que l'idéal du moi et le moi sont suffisamment reliés. C'est-à-dire que le moi reçoit l'amour de l'idéal du moi parce qu'il fait bien les choses, entre autres, hein. Bien sûr que c'est lié au bon objet interne, mais ce bon objet interne, il est souvent représenté par l'idéal du moi. Enfin, on va y revenir. Donc, Sœur Emmanuel disait aussi « Toutefois, l'Eucharistie était pour moi une joie qui dépasse tout ce que les hommes peuvent m'offrir. » Donc, pour dire quoi ? Pour dire que la satisfaction, elle est liée à deux choses. Elle est liée au sentiment de fusion et elle est liée à la satisfaction du moi par le bon objet interne qui est renforcé par l'objet externe. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça. On a besoin que de temps en temps le bon objet interne reçoive suffisamment de bon de la part d'un bon objet externe investi qui nous aime et qu'on aime, pour pouvoir renforcer le bon objet interne, qui lui-même va abaisser les attentes de l'idéal du moi, qui fait que le moi va être suffisamment tranquille par rapport à quelque chose qui d'habitude le chevauche hardiment et le fait souffrir. Donc on pourrait dire que ce renforcement de la satisfaction par l'objet externe avec lequel on est en fusion et qui est bon pour nous et qui est plein d'amour et de plaisir de l'autre, eh bien, le renforcement du bon objet interne par cette expérience de fusion avec le bon objet externe va être une source de satisfaction profonde qui amènera une sérénité, une plénitude liée au fait que l'idéal du moi va être abaissé, ou plus exactement, le moi va être rempli par ce bon objet interne et donc sera plus proche de l'amour de l'idéal du moi. Donc vous commencez à apercevoir ce que je veux dire, c'est à quel point la satisfaction est essentielle. Mais c'est pas simple non plus, parce que la satisfaction, c'est lié à quelque chose du dedans. C'est dedans. En plus, c'est pas très facile à percevoir. Hein ? Autant le plaisir est relativement facile à cerner, par exemple l'orgasme clitoridien est plus délimité, plus précis, plus pointu, plus sous la main, alors que l'orgasme vaginal est plus flou, plus vague, plus dispersé dans le profond du corps. Donc autant on peut décrire avec précision les réactions orgasmiques clitoridiennes, alors que la description orgasmique vaginale reste floue et appelle des métaphores poétiques. Quoi. Parce que c'est justement cette question du dedans, ce qui se passe dedans. Or, ce qui se passe dedans n'est pas simple, n'est pas facile à percevoir, pas facile à mettre en mots, pas facile à conscientiser, c'est vague et ça peut faire peur. On y reviendra, mais le dedans, c'est souvent une source de crainte aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Voilà, donc pour dire quoi ? Pour dire que le plaisir et la satisfaction ne sont pas du même registre et que l'un est plus facile à cerner que l'autre. Alors essayons de voir quel type de satisfaction il existe. Et qu'est-ce que suppose la satisfaction ? Qu'est-ce que suppose l'absence de satisfaction ? La satisfaction pleine, c'est l'idéal. Les quatre brins de la tresse sont reliés. Pulsion, plaisir lié à la décharge de cette pulsion, sentiment de plénitude et lien avec un bon objet auquel on se sent fusionné. Cette expérience est très importante parce que la fusion satisfaisante et complète avec le bon objet externe renforce et stabilise le bon objet interne. Bon, vous aurez reconnu sans difficulté ce qu'on vit dans les premiers moments d'une relation amoureuse, où tout se passe justement avec ces quatre fils reliés en permanence et où la satisfaction est intense, puisqu'on a à la fois le plaisir, le sentiment de plénitude et le rapport avec un bon objet externe qui vient nous renforcer narcissiquement et avec lequel on est bien. Mais il peut y avoir, et c'est plus rare, il peut y avoir des satisfactions qui sont amputées du plaisir. Alors, je vais vous donner un cas, mais en fait, on trouve assez souvent ça dans les extases mystiques ou les choses comme ça, qui sont comme une façon d'être fusionné avec un bon objet idéal, avec une satisfaction merveilleuse, et pourtant coupé du plaisir corporel, et qui est presque comme une espèce de satisfaction hors sol, quoi. Et avec beaucoup d'inconvénients. Sans les mains. J'avais une patiente qui était un peu dans ce goût-là, c'est-à-dire, bon, bien entendu, elle avait eu une enfance très difficile, une mère qui la battait, finalement c'est la grand-mère qui l'a récupérée, mais qui l'a raptée en faisant quasiment sa chose. Cette patiente a subi des attouchements par un homme à l'adolescence, etc. Bon, il y avait tout, quoi, il y avait la totale. Et elle se disait elle-même, je suis une anorexique du désir. Et c'était exactement ça. Et elle disait aussi, je suis dans une vie empêchée. Elle n'avait jamais eu une relation amoureuse, et par contre, elle a été bonne sœur durant une dizaine d'années au moins, avec un surinvestissement du mental et des tentatives de satisfaction sublimatoire et religieuse. Donc, surinvestissement du mental qui se voyait par le fait qu'elle lisait constamment. Elle passait son temps à lire. D'ailleurs, elle avait une culture assez extra. Et plus tard, dans la cure, à un moment donné, elle disait « Je veux me délivrer, sortir de tous ces livres. » Bon, ces tentatives de satisfaction sublimatoire et religieuse, qui étaient effectivement réelles, qui lui donnaient d'ailleurs une belle densité humaine, hein, c'était une personne intéressante tout à fait, hein, malgré tout se payait d'une grande souffrance. Elle disait « C'est comme si j'avais un énorme trou dans le ventre et de nombreux symptômes. » En fait, il lui manquait le lien entre la satisfaction et le plaisir pulsionnel, parce qu'il y avait un tabou sur tout ce qui était pulsion, y compris pulsion agressive. Hein. Bien sûr, elle était bonne sœur. Donc gentille, douce, tout ce qu'on veut. Et je me rappelle d'une séance bouleversante où elle a découvert, grâce au rêve éveillé, aux différents messages du rêve éveillé, je peux à la fois aimer Jésus et avoir du plaisir avec un homme. Pour elle, c'était vraiment un virage, quoi. Et suivi, d'ailleurs, quelque temps après, « J'en ai marre que les hommes ne soient séduits que par mon âme. » Et d'ailleurs, petit à petit, à la fin de la cure, elle s'est inscrite dans une réalité sociale qui était plus en accord avec sa brillante intelligence. Mais on voyait vraiment ce qu'il y avait de mortifère dans cette satisfaction qui était une satisfaction réelle, mais coupée des racines pulsionnelles. Donc, je vais vous parler de la satisfaction pleine, mais il peut y avoir des cas de satisfaction amputée du plaisir. Et il peut y avoir des cas, bien entendu, et là, c'est le problème important, d'une satisfaction absente. C'est-à-dire qu'il y a du plaisir, mais il n'y a pas de satisfaction. Si le manque de lien au bon objet externe, mais en fait, le bon objet externe, il est relié au bon objet interne, hein. Si le manque de lien est trop présent, alors post coitum omne animal triste. Vous connaissez la phrase latine. Après le coït, eh bien, la chair est triste, quoi. Hein. Donc il y a du plaisir, mais il y a un sentiment de manque. Et la solution adoptée par certains, c'est de faire plus de la même chose. C'est de rechercher toujours plus de plaisir. Dans l'espoir d'enfin atteindre cette fusion bienheureuse avec le bon objet. Donc ça peut donner ou des addictions, addictions y compris sexuelles, ça peut donner une pulsion d'emprise exacerbée qui veut faire de l'objet un reflet exact de ce qui est attendu pour qu'enfin il soit satisfaisant. J'ai un exemple d'un type particulièrement pervers. C'était une patiente que j'avais qui avait été obligée de se prostituer par un bonhomme vraiment sauvage et qui la tenait en la faisant chanter par rapport à sa famille. Bon, je ne vous détaille pas, mais par exemple, quand il, j'allais pas dire faire l'amour, quand il la baisait, il lui tordait les seins pour qu'elle gémisse, donc comme des gémissements de plaisir, sauf que là c'était des gémissements de douleur, au point qu'elle avait les seins tout bleus après, et il lui disait « Dis-moi que tu m'aimes ». Ce qui est quand même vraiment... On sent à quel point même un type comme ça, aussi pervers, aussi violent, aussi destructeur, était à la recherche de ce truc qui lui manquait, quitte à le faire jouer, quoi, artificiellement, par cette femme. Et en fait, continuons sur cette question du pervers, le pervers, il fait pas l'amour à une personne, mais il fait l'amour à un objet partiel qui est chargé de concrétiser le fantasme. Et alors, ce qu'on pourrait croire, c'est que le pervers, il est très possédé par ses pulsions. En réalité, il est coupé du corps et des pulsions. Il est en lien, non pas avec son corps et ses pulsions, il est en lien avec le fantasme. Et certains pervers sont obligés de recréer l'excitation par le mental avec des rituels très compliqués pour enfin atteindre l'orgasme. C'est-à-dire qu'en fait, ça vient pas du corps, ça vient du fantasme, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et en fait, il n'éprouve pas de satisfaction. Parce que la satisfaction, ça suppose le désir de l'autre, ça suppose le désir du désir de l'autre. Et la joie de relier les différents éléments de la tresse. Le pervers, il n'éprouve pas de satisfaction et ça le fait beaucoup souffrir. Seulement, il masque sa souffrance à lui-même. Et souvent, les pervers prônent bruyamment leur perversion. Hein ? Les autres sont des cons s'ils ne savent pas à quel point c'est merveilleux d'être sadomaso. C'est vraiment le vulgum pecus, tous les autres qui comprennent pas à quel point c'est merveilleux. Très souvent, si vous avez l'occasion de discuter avec des pervers, ils ont vraiment quelque chose comme une sorte de comme une sorte de gloire de leur perversion, qui en fait est une tentative pour en masquer la misère. Hein. Et la surenchère perverse, qui toujours plus, ça donne l'impression qu'ils sont hypersexués, alors qu'en fait c'est le contraire, quoi. Des Casanova, des Don Juan, c'est pas forcément des gens qui sont liés avec leur pulsion, c'est au contraire des gens qui sont avec leur tête, quoi. Et qui sont dans une tentative désespérée et vaine d'atteindre la satisfaction. Donc il ne leur reste que la pulsion d'emprise. En résumé, les pervers, condamnés à un plaisir bien plus pulsionnel et à une recherche de toujours plus de plaisir dans l'espoir d'atteindre la satisfaction, souffrent. D'où mon titre, « La tristesse des condamnés au plaisir ». Et ils souffrent de quoi ? Du manque de satisfaction, du risque permanent d'être possédé par le mauvais objet interne, et de l'impossibilité d'être en vraie confiance avec leur corps et leur boussole interne, d'où un déficit grave d'empathie, qui est typique des pervers. Ils ne peuvent pas sentir ce que l'autre, quoi, puisqu'ils sont, ils peuvent même pas se sentir eux-mêmes. Et leur tentative pour avoir de la satisfaction, elle échoue parce qu'elle se heurte à la barrière du refus de l'expérience primaire de dépendance envers un autre détoxiquant et bon, quoi. Il faudrait supporter d'être dépendant de cet objet-là. Ce chemin leur serait possible en analyse s'ils acceptaient de reconnaître leur profonde souffrance. Or ça, c'est en général justement ce qui fait la différence. C'est qu'ils ne veulent pas reconnaître ni leur souffrance ni leur culpabilité. Et tant qu'ils n'ont pas la possibilité de percevoir leur profonde souffrance dont ils sont coupés, eh bien tout en eux est installé pour éviter de la percevoir, en particulier grâce au passage à l'acte et grâce à la surestimation du fantasme qui est censé représenter la réalité. Mais en même temps, ça ne nous est pas si étranger que ça, ces trucs de perversion. Parce que la coupure entre le plaisir et la satisfaction nous guette dans le couple. Dès lors que la satisfaction disparaît. Hein ? Mettons, par exemple, il y a des couples, on peut continuer à avoir du plaisir. On fait l'amour, on est habitué, on sait comment ça marche, on fait fonctionner la machine. Et pour autant, il n'y a plus cette espèce, il n'y a pas ou pas assez cette espèce de satisfaction. Ou l'inverse, il peut y avoir des couples, j'ai eu des cas comme ça, qui sont tous les deux dans la sublimation, dans faire un truc très satisfaisant dans un groupe mystique ou dans un groupe de je ne sais quoi, et qui ont pratiquement plus de vie sexuelle, et qui en fait, eux aussi, ils sont dans la satisfaction sans le plaisir. Eh bien, dans ces deux cas-là, le truc est dangereux, quoi. Il peut y avoir une tentative de surenchérir dans le plaisir triste, au besoin, en faisant même de son conjoint un objet partiel, et pourtant il y a du manque. La comparaison qui vient à l'esprit, c'est celle des vitamines. Par exemple, vous savez que dans le temps, il y avait, sur les marins qui partaient en mer, ils avaient le scorbut. Le scorbut, c'était quoi ? C'était le déficit de vitamine C. Ils pouvaient bien manger toujours plus de viande séchée ou de je ne sais quoi, il n'empêche que la petite dose de vitamine C qui n'était pas donnée leur manquait. Bien là, c'est pareil, on peut bien surenchérir dans le plaisir. S'il n'y a pas la satisfaction, il y a quelque chose qui manque. Ou surenchérir dans la tendresse et les satisfactions sublimatoires. Mais s'il n'y a plus le désir, s'il n'y a plus d'érotisme, s'il n'y a plus quelque chose de l'ordre du plaisir, là aussi, il manque quelque chose. Et on ne peut pas remplacer l'un par l'autre. Il faut les deux. Voilà, pour dire que cet étrange comportement des pervers nous est pas totalement étranger, même si on n'est pas pervers. Mais ça peut commencer à nous poser problème dès lors que le plaisir et la satisfaction sont séparés. Ceci dit, histoire de compliquer un peu, le plaisir et la satisfaction, ils ont tous les deux des freins intérieurs. Parce que le plaisir, cette élévation de tension qui pousse vers l'éros, vers la vitalité, etc., ça peut devenir mortifère lorsque ça devient une recherche compulsive, comme les rats dont je vous parlais tout à l'heure, ou comme certains malades qui ont des masturbations compulsives à longueur de journée, ou certaines personnes qui ont eu des problèmes au cerveau, etc., qui sont là tout le temps, ils ont le plaisir d'organes, mais il y a quelque chose qui devient mortifère. Et à la limite, il peut aussi ne pas y avoir, comme dans le cas de Marie-Élisabeth, moi j'ai eu une patiente aussi comme ça, même pas de plaisir d'organe. C'est-à-dire, moi j'avais une patiente qui n'avait aucune sensation clitoridienne, rien, mais rien. Et la seule chose qu'elle ressentait, c'était quand elle se faisait sodomiser et qu'il y avait quelque chose du dedans qui était plus ou moins douloureux et qui au moins donnait un sentiment de plaisir, quoi. Donc vous voyez que le plaisir, il a son frein en ce sens qu'il peut devenir mortifère. Et la satisfaction, elle a aussi ses freins et ses limites, elle a deux limites. La première, dans l'enfance, c'est l'interdit de l'inceste, qui se manifeste par des interdits de la part des parents sur la pulsion d'emprise. Baisse les yeux, regarde-moi pas, viens pas me regarder quand je suis à la salle de bain. arrête de me tenir comme ça. Viens pas écouter ce qu'on est en train de dire. Il y a quelque chose comme une sorte de limite saine à la pulsion d'emprise qui est l'interdit de voir, l'interdit de toucher, l'interdit de prendre de force, qui est en somme une limite qui dit l'interdit de l'inceste. Mais qui plus tard, chez l'adulte, gardera des traces, c'est-à-dire qu'il y a un certain dégoût pour les zones corporelles trop animales, trop chargées d'odeurs, qui peut être issu de cet interdit de l'inceste d'enfant, hein, de la floraison des parfums. Donc l'interdit de l'inceste est une des limites de la satisfaction, et l'autre interdit, c'est le danger de rester coincé dans la fusion. Parce que si c'est merveilleux cette satisfaction, pourquoi bouger ? On va rester dans le nirvana, etc. Et en fait, comme c'est trop dangereux, eh bien, il y a une partie qui se protège de ça par la honte du désir ou par la honte de la passivité que ça suppose. Et dans ces cas-là, eh bien, il y a des manques, quoi. Donc on peut dire que même si on a bien du plaisir et même si on a bien de la satisfaction, il n'empêche qu'il y a quand même des limites internes au plaisir et à la satisfaction. Bon, rapidement, un truc sur l'inquiétant dedans. Le dedans est une zone inquiétante pour chacun des deux sexes. Ça se voit particulièrement dans les fantasmes qui concernent le dedans du ventre féminin. Hein, le ventre féminin, c'est un mystère, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce qui se passe dedans ? Il sort des choses, il sort l'enfant du ventre, il sort du sang du ventre, il sort des choses mystérieuses. Donc, il y a quelque chose qui est inquiétant dans l'intérieur du ventre féminin. Il y a le fantasme du vagin denté, il y a le voyeurisme de ce dedans avec le spéculum, comme une façon de tenter de savoir qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans. Et en fait, les deux sexes ont une espèce de crainte du dedans, plus spécialement du dedans féminin, mais d'une façon élargie ensuite, du dedans en général. Ce qui peut donner chez l'homme, par rapport à ce ventre féminin mystérieux, soit l'ardeur à le détruire, à le sadiser, pour être sûr de s'en différencier, le machisme, le sadisme, le contrôle obsédant, soit le désir de le protéger. Protéger les femmes. En fait, en protégeant les femmes, c'est protéger son dedans. D'où le succès des femmes-enfants, par exemple. Il n'y a rien de plus séduisant que les femmes-enfants, parce qu'on va les protéger. En fait, en les protégeant, on protège quelque part son dedans. Hein? Donc, le fait que le dedans est une zone inquiétante a des conséquences négatives qui sont... qu'on a là aussi une difficulté supplémentaire pour écouter les messages et les signaux intérieurs qui peuvent venir du dedans. Donc, du coup, ça peut encore être un peu un frein pour une pleine satisfaction. Bref, on ne va pas s'éterniser là-dessus, parce que sinon on en aurait encore pour une heure. En conclusion, d'abord une petite incise, c'est que notre culture favorise plus particulièrement avec Internet, avec les images, avec la télé, etc., le clivage plaisir-satisfaction. Parce que le plaisir voyeuriste, le plaisir, il est facile à atteindre. La satisfaction qui suppose d'aller au contact avec un être véritable, avec qui on va être dans une véritable relation, c'est autre chose. Or, tout dans notre culture pousse du côté du plaisir, mais pas de la satisfaction. La comparaison que j'ai, c'est comme si on était gavé de bonbons. Mais être gavé de bonbons, ça donne pas au corps les éléments vitaux nécessaires. Hein ? Et la base stable, eh bien, c'est pas dans les images qu'elle se trouve, c'est en intra, c'est dans le bon objet interne. Donc le but d'une cure analytique, plus spécialement rêve éveillé, mais d'une cure analytique en général, le but d'une cure analytique, c'est justement de restaurer les bases mêmes du psychisme. Donc je vous relis la phrase dans Yeux que j'aime bien, que je cite assez souvent. Une définition possible de la cure psychanalytique, celle de permettre aux patients de faire des expériences archaïques, fondamentales, constitutives de la psyché, du moi et du penser, qu'il n'a pas eu l'occasion de faire dans son expérience naturelle. Dans ce sens, la possibilité pour le patient de relier la tresse du plaisir et de la satisfaction passera par trois choses qui sont capitales dans une cure. Une autorisation au plaisir, levée de la culpabilité, travail sur la castration, gestion du pulsionnel, gestion de l'Œdipe, etc. Hein, toutes ces choses-là de base, qui en fait amènent à une autorisation au plaisir. Un peu comme dans le cas dont parlait Marie-Élisabeth. Il peut être sur son cheval et il peut draguer des femmes. Et c'est la cure qui lui permet ça. Hein. Donc, une autorisation au plaisir grâce à la levée de la culpabilité, au travail sur la castration, à la gestion du pulsionnel et au travail sur l'Œdipe. Premier point, une autorisation au plaisir. Deuxième point, le triomphe du bon objet. Car la satisfaction vraie passe uniquement par là. Or, qu'est-ce qui se passe dans une cure si ce n'est le triomphe du bon objet ? À travers les expériences émotionnelles correctrices du fait du contre-transfert, où on ne joue pas le jeu et où on amène autre chose à la place, et à travers la bienveillance maternelle de fond du psychanalyste rêve éveillé et les rêves éveillés restaurateurs. Donc, une autorisation au plaisir, le triomphe du bon objet, et troisièmement, la sécurité concernant ce qui vient du dedans, et le respect des messages issus de cet intérieur. Or, qu'est-ce que fait le rêve éveillé ? Eh bien, justement, il fait ça. Puisque, au fur et à mesure du travail sur le rêve éveillé, la personne, elle s'aperçoit qu'une vérité d'elle-même se situe ailleurs que de ce que se raconte son mental, et du coup, elle va prendre l'habitude d'écouter et de symboliser ce qui est en train de se dire à l'intérieur d'elle-même, du dedans. Autorisation au plaisir, triomphe du bon objet et sécurité concernant ce qui vient du dedans me paraissent recouvrir la plupart des cures, que ça soit œdipienne ou que ça soit identitaire narcissique. L'atteinte de ces trois points signe une analyse réussie, de mon point de vue. Et je terminerai en disant qu'à la lumière de ce travail qui a été extrêmement intéressant pour moi, je crois qu'on pourrait rebaptiser principe de plaisir en principe de satisfaction.